Voici une question dont la réponse va dépasser notre compréhension naturelle. Devons-nous ajouter quelque chose à l'œuvre de Dieu si nous voulons être sauvés? La parole de Dieu va nous donner une réponse encourageante aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je crois qu'on va comprendre davantage à quel point Dieu nous aime à travers les réponses que sa parole va nous donner aux questions que voici. Est-ce que le Seigneur peut entrer dans notre cœur sans que nous ne l'invitions? Est-ce que le Seigneur Jésus a accompli tout ce qui était nécessaire pour le salut de nos âmes? Avons-nous quelque chose à ajouter à son œuvre pour être sûrs d'être sauvés? Sur quel fondement sommes-nous acceptés dans la présence de Dieu? Que faut-il faire pour être sauvé? Restez avec nous. Je suis certaine que les Saintes Écritures vont nous donner des réponses claires aux questions d'aujourd'hui. Le pasteur Régent Joly les a trouvées dans la Bible, le grand livre de Dieu, et il est prêt à nous donner tout ce bon enseignement. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, on désire venir dans ta présence. On désire que tu nous enseignes. On veut que nos cœurs soient touchés aujourd'hui par ta parole, transformés grâce à toi, grâce à ton amour. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Naomi a conseillé à Ruth de réclamer ses droits et de demander à Boaz d'exercer son droit de rachat. Elle a demandé à Ruth de faire 4 choses. Se laver, se mettre du parfum, de se revêtir d'une belle robe et de descendre à l'air pour faire sa demande à Boaz. Ces 4 pas correspondent à 4 éléments du salut. Se laver, nous devons passer par le baptême de la régénération. Autrement dit, il faut naître de nouveau. Nous avons besoin d'une nouvelle nature. Soindre d'huile ou se parfumer. Il nous faut l'onction du Saint-Esprit, car seul celui-ci peut nous enseigner les choses de Dieu. Se revêtir, nous avons besoin d'un vêtement de justice non souillé. Nous avons besoin que le Seigneur Jésus nous revête de sa justice, car la nôtre est souillée, et nous ne pouvons pas venir en présence de Dieu avec celle-ci. Descendre dans l'air, il faut demander au Seigneur Jésus de nous sauver, de devenir notre sauveur personnel, tout comme Ruth a dû demander à Boaz d'exercer son droit de rachat. Maintenant, nous reprenons au verset 4 du chapitre 3, alors que Naomi termine ses instructions à Ruth. Verset 4. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Mes amis, tout comme Ruth ira vers Boaz, de même nous devons venir à notre Rédempteur, à celui qui a le droit de rachat pour nos péchés, à Jésus-Christ. Celui-ci ne nous sauvera pas sans que nous l'invitions à le faire. Il nous faut une foi active qui invitera le Seigneur Jésus à entrer dans notre cœur. Nous ne pouvons nous tenir sur le côté et simplement admirer la belle doctrine tout en l'approuvant d'un signe de tête. Il faut personnellement inviter le Seigneur Jésus dans votre cœur. Se pourrait-il que vous ayez été élevé dans une église chrétienne, que vous ayez reçu les enseignements de votre religion, mais que vous n'ayez jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur comme sauveur personnel? Appartenir à une religion ne sauve pas, mais c'est plutôt appartenir au Seigneur Jésus-Christ, avoir été racheté par lui. Et cela se passe entre Dieu et vous. C'est une décision personnelle. Versets 5 et 6. Elle lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. » Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Notez qu'il n'y a rien qui est répréhensible dans ce que Naomi a demandé à Ruth de faire. Si nous ne connaissons pas le contexte culturel, nous pourrions penser ce que Ruth fait est un mauvais témoignage. Visiter un homme la nuit ne devrait pas se faire. Premièrement, Naomi n'aurait pas demandé à Ruth de faire une chose répréhensible. Ruth devait demander à Boaz d'exercer son droit de rachat, et l'aire de vannage était un endroit public. Les moissonneurs s'y trouvaient avec leur famille. En fait, Naomi dit à Ruth, lorsqu'ils auront terminé de vanner le grain, qu'ils auront mangé, et qu'ils auront terminé leur temps de prière et d'adoration, ils se coucheront autour de l'aire, la tête à la circonférence et les pieds vers l'extérieur. Vas-y, et mets tes pieds vers ses pieds, et tire son manteau sur tes pieds. Boaz te dira quoi faire. Tout cela se fait en public, devant tous. Il ne s'est rien passé qui pouvait être interprété comme étant immoral par les témoins. Si nous pensons que cela regarde mal, c'est que nous ne connaissons pas les traditions entourant le vannage du grain. Versets 7 et 8. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha, et voici, une femme était couchée à ses pieds. Ruth tira le manteau de Boaz, et celui-ci dut sentir la fraîcheur. Il s'est réveillé, et il s'est aperçu qu'il y avait une femme à ses pieds. Verset 9, il dit, « Qui es-tu ? » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante. » car tu as droit de rachat. » C'est une des scènes touchantes de la Bible. Savez-vous ce qu'elle dit à Boaz? Elle lui dit, « Je veux que tu sois mon parent rédempteur, et je veux te demander d'exercer ton droit de rachat. » Cette requête a dû rendre Boaz très heureux. La femme qu'il aime le choisit comme rédempteur. Verset 10. Et il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. » Autrement dit, il a dit, « Lorsque tu es venu ici, il était évident que tu n'étais pas à la chasse au mari. Ruth avait gardé sa place, mais maintenant elle demande à Boaz d'exercer son droit de rachat. Et elle n'a pas besoin de lui tirer les oreilles pour qu'il le fasse. Elle s'y prend très diplomatiquement. Elle ne s'est pas adressée aux tribunaux pour faire valoir ses droits. Elle aurait pu convoquer les anciens de la ville et leur dire qu'elle réclamait que Boaz exerce son droit de rachat. Le tout aurait été une démarche juridique. Mais, dans sa sagesse, Naomi a suggéré une autre démarche puisqu'il était évident que sa légalité ne serait pas questionnée, puisque Boaz ne demandait qu'à racheter l'héritage d'Élimélec pour avoir Ruth. Donc, elle suggéra à Ruth de simplement laisser savoir à Boaz qu'elle désirait le réclamer comme rédempteur. Elle descend à l'air et, d'une façon modeste, fait connaître son désir à Boaz. Celui-ci désire épouser Ruth immédiatement, et ce qu'il espérait ardemment se produit. Puisque Ruth a fait la requête, maintenant Boaz peut agir et entreprendre les démarches nécessaires. Il est réconfortant de savoir que nous avons un sauveur. Nous pouvons louer Dieu parce que nous avons un sauveur et que c'est une affaire de cœur entre lui et nous. Il nous a aimés le premier, et il s'est donné lui-même en sacrifice afin de nous racheter. Quel réconfort de savoir que nous avons un Sauveur qui est mort pour nous, qui nous aime et qui vit pour nous aujourd'hui. Verset 11. « Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. » Notez l'excellente réputation qu'a Ruth. En temps ordinaire, elle aurait été rejetée par la société de Bethléem. Elle aurait été rejetée à cause de la loi mosaïque, car les Moabites et les Ammonites n'étaient pas admis dans l'Assemblée de l'Éternel. Naomi lui avait expliqué que les possibilités qu'elle se marie étaient presque nulles. Ruth avait été prête à accepter cela pour que le Dieu de Naomi soit son Dieu et le peuple de Dieu soit son peuple. Toutes les commères de la ville ont dû avoir Ruth à l'œil au début. Elles ont dû croire que Ruth essaierait de mettre le grappin sur un des jeunes hommes de la ville, mais ce ne fut pas le cas. Elle s'est forgée une réputation de femme vertueuse. Verset 12. « Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. » Boaz avait déjà commencé à faire ses devoirs et il savait qu'une autre personne avait priorité sur lui pour le droit de rachat. Boaz était prêt à bondir en action aussitôt que Ruth lui ferait signe. C'est la présence de cette autre personne avec droit de rachat qui l'avait empêché d'agir jusqu'ici. Cet homme était peut-être plus riche que Boaz. Imaginez que pendant les 6 semaines de récolte, que Boaz ait dit à Ruth qu'il voulait exercer le droit de rachat. Elle aurait pu répondre, « Je suis flattée et honorée, mais il y a une autre personne qui a droit de rachat. Je pense que c'est elle que je vais demander, car elle est plus riche que toi. » Boaz se serait trouvé dans une situation malheureuse. C'est pourquoi il a dû attendre un signe de Ruth avant de faire quoi que ce soit. Il est probable que cet autre homme, avec droit de rachat, était un frère d'Élimélec, le mari de Naomi, alors que Boaz était un cousin du premier mari de Ruth. Verset 13. « Passe ici la nuit, et demain, s'il veut user envers toi du droit de rachat à la bonne heure, qu'il le fasse. » Mais s'il ne lui plaît pas d'en user envers toi, j'en userai moi. L'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Boaz ne sait pas exactement ce qu'il fera si l'autre parent veut exercer son droit de rachat. Cependant, il a une stratégie et il espère qu'elle fonctionnera. Le plus proche parent du défunt a la priorité pour racheter la propriété de Ruth, car c'est elle qui héritera de la terre de son mari. Boaz invite Ruth à passer la nuit à l'air, car les routes étaient dangereuses la nuit. Il se soucie de la sécurité de Ruth. Verset 14. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin, et elle se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit, « Qu'on ne sache pas qu'une femme est entrée dans l'air. » Boaz ne désirait pas que le plus proche parent, avec droit de rachat, apprenne que Ruth avait choisi Boaz. En effet, s'il avait désiré épouser Ruth, il aurait immédiatement tassé Boaz. Donc, Boaz veut l'initiative pour régler cette affaire. Versets 15 et 16. Et il ajouta, « Donne le manteau qui est sur toi et tiens-le. » Elle le tint, et il mesura 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle. Puis, il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère, et Naomi dit, « Est-ce toi, ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Boaz fit un don très généreux à Ruth. C'était l'équivalent d'une semaine de salaire à l'époque. Naomi devait avoir hâte de recevoir des nouvelles. Ruth devait avoir une certaine réticence à approcher Boaz. Naomi a peut-être dû la pousser vers la porte, donc Naomi n'a pas dû dormir beaucoup, étant attentive au moindre bruit. Lorsque Ruth revient, elle pose la question, « Est-ce toi, ma fille ?» Nous pourrions peut-être reprendre cette question en d'autres mots. « Alors, es-tu madame Boaz, oui ou non ?» Ruth confirma à Naomi que sa belle-mère avait raison, Boaz l'aimait. Versets 17 et 18, elle dit, « Il m'a donné ses 6 mesures d'orge en disant, « Tu ne retourneras pas à vide vers ta belle-mère. » Et Naomi dit, « Sois tranquille, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira la chose, car cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Ruth n'a qu'à se bercer dans une chaise en attendant que Boaz complète toutes les démarches nécessaires. Désormais, c'est Boaz qui sera l'homme d'action. Il va s'occuper des démarches. Il accomplira l'œuvre de rédemption. L'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus est entièrement accomplie. Oui, mes amis, c'est merveilleux d'avoir un Sauveur à qui nous pouvons faire confiance, sachant qu'il est notre Rédempteur. C'est tout un cadeau que Dieu nous a fait. Le Seigneur Jésus a tout accompli ce qui était nécessaire pour le salut de nos âmes, pour notre rédemption. Il nous invite à entrer dans son repos parce que tout est accompli. Rappelez-vous la prière sacerdotale dans Jean chapitre 17. « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Verset 4. Cette œuvre rédemptrice consistait à donner sa vie pour nous à la croix. Lorsqu'il était pendu à cette croix, le Seigneur a dit « Tout est accompli. » Jean chapitre 19, verset 30. Lorsqu'il a prononcé ces paroles, notre rachat était complété. Il avait pris sur lui la punition méritée par nos péchés. Nous ne pouvons pas ajouter quoi que ce soit à son œuvre. Le Seigneur Jésus a fait tout ce qui était nécessaire pour notre salut. L'œuvre rédemptrice est entièrement l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons simplement accepter ce cadeau qu'il a accompli parfaitement pour nous. Le Seigneur Jésus dépose une paix merveilleuse dans le cœur de ceux qui lui font confiance, parce qu'ils se rendent compte que tout est accompli. Ce fut fait à la croix. Dieu n'a que faire de nos faibles efforts. Dieu n'accepte pas quoi que ce soit qui vient de nous pour notre salut. Nous n'avons rien à contribuer ou à ajouter au salut parfait que nous a procuré le Seigneur Jésus. Nous n'avons rien à ajouter à l'œuvre du Seigneur Jésus. Premièrement, vous et moi sommes en faillite spirituelle, et nous n'avons rien à contribuer à notre salut. Nous devons venir à Jésus-Christ et accepter son merveilleux cadeau. C'est pour cette raison que la croix est un scandale pour certaines personnes. L'apôtre Paul a parlé dans l'Épître aux Galates en disant « Le scandale de la croix a donc disparu ». Galates, chapitre 5, verset 11. De nombreuses personnes croient qu'elles vont aller au ciel parce qu'elles sont bonnes, parce qu'elles ont fait de bonnes œuvres, parce qu'elles viennent d'une famille chrétienne, parce qu'elles sont membres d'une église. Être membre d'une confession religieuse ne signifie pas que vous êtes sauvés. Dieu ne vous accepte pas parce que vous êtes inscrit dans les registres d'une confession religieuse ou d'une église indépendante. Dieu n'accepte pas aucun des efforts que nous pourrions faire pour aller au ciel. L'œuvre de la rédemption est entièrement et totalement l'œuvre du Seigneur Jésus. Il fut pendu à la croix comme Fils de l'homme. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean, chapitre 3, versets 14 et 15. Nous sommes acceptés en présence de Dieu sur le fondement de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. C'est pourquoi il est venu sur terre il y a plus de 2000 ans. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit, « Mais tu m'as formé un corps. » Dieu ne voulait pas d'offrande et de sacrifice. Les sacrifices de l'Ancien Testament étaient une image du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Ils pointaient vers l'œuvre de Jésus-Christ. Ils servaient à préparer les gens pour la venue de Jésus-Christ. C'est recevoir le Seigneur Jésus-Christ qui nous sauve. Il est le Sauveur. Ce n'est même pas notre foi qui nous sauve, mais c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas notre joie dans le Seigneur qui nous sauve, mais la personne de Jésus-Christ. La foi n'est qu'un instrument pour recevoir le salut. C'est par le sang et les mérites de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. La foi nous permet de recevoir le salut que le Seigneur Jésus nous a procuré. Soit que vous faites confiance à Jésus, soit que vous le rejetiez. il n'y a pas d'autre voie. Soit que vous faites confiance à Jésus-Christ et son œuvre à la croix pour votre salut, soit que vous fassiez fausse route en essayant de gagner ou de mériter votre ciel. Au dernier verset du chapitre 3, Naomi dit, « Cet homme ne se donnera point de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. » Naomi a dit à Ruth, « Sois tranquille, ma fille, tu n'as plus rien à faire. Lorsque tu lui as demandé de te racheter, tu as fait tout ce qu'il t'a demandé. Il s'occupera de ton rachat. » Plusieurs textes du Nouveau Testament nous parlent que c'est l'œuvre de Jésus et non la nôtre. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Éphésiens chapitre 2 versets 8 et 9. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains chapitre 6, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains chapitre 3, verset 23 et 24. Et comme si cela n'était pas suffisant, en voici d'autres. Oui, d'autres textes qui affirment que c'est l'œuvre de Jésus-Christ et non la nôtre. Romains chapitre 5, verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Hébreux chapitre 10, versets 12 à 14. Chers amis, reconnaissez toute la valeur que Dieu met sur les souffrances de Jésus-Christ. Cet homme habitué à la douleur, cet homme semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Citation du prophète Ésaïe, chapitre 53, versets 3 à 6. Quelle belle description de ce que Christ a dû subir pour chacun d'entre nous, pour payer la dette en entier concernant notre péché. Crois et accepte cette vérité pour toi-même. Chers amis, c'est la seule façon d'être sauvé. Prochaine émission, Ruth chapitre 4.
Oh, merci beaucoup, Régent. Et merci surtout, Seigneur, de nous démontrer à quel point tu nous aimes en nous enseignant dans le livre de Ruth. Mes amis, avez-vous déjà entendu une plus belle histoire d'amour? On a vu aujourd'hui que l'histoire de Boaz et de Ruth est une figure de l'histoire de Jésus et son Église. Quand j'étais toute jeune, mes parents se sont divorcés. Et à partir de ce moment-là, alors que je n'avais que 9 ans, je me suis mise à la recherche du grand amour, convaincue que je n'aurais pas à souffrir comme ma mère, qui était seule pour pourvoir aux besoins de ses 3 filles, dont j'étais la 3e. De l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, Je suis donc tombée en amour plusieurs fois pour réaliser en bout de ligne que le grand amour, l'amour parfait, l'amour avec un grand A, comme je le nommais, n'existait pas chez l'être humain. Quelle déception! Et tout cela m'a conduite vers la consommation de la drogue, vers les abus d'alcool et même jusqu'à une tentative de suicide. Et je sais que je ne suis pas seule à avoir vécu de tels déboires. Mais un jour, quelqu'un m'a présenté celui qui m'aimait parfaitement, celui qui m'avait prouvé son amour même avant que je le connaisse. Et son nom, c'est Jésus. Ce Jésus merveilleux, le Fils de Dieu, Dieu qui s'est fait homme dans le but de venir m'arracher au châtiment éternel que je méritais pour mes péchés. Quand j'ai appris qu'il était mort sur la croix pour payer ma rançon, quand j'ai réalisé que c'était pour moi qu'il avait tant souffert, j'ai vu à quel point il m'aimait. J'ai immédiatement demandé à la personne qui m'annonçait cette bonne nouvelle ce que je devais faire pour être sûr d'aller au ciel, pour passer l'éternité avec Jésus. Et elle m'a dit, « Premièrement, Caro, il faut que tu reconnaisses que tu es une pécheresse perdue. » Et dans mon orgueil, j'ai immédiatement riposté en disant, « Je fais pas ça, moi, des péchés. » Mais aussitôt après, je me suis sentie coupable d'avoir dit ça. C'est l'Esprit de Dieu qui était en train de me convaincre de pécher, comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Cette constatation du péché dans ma vie m'a ensuite amené à me repentir, à demander au Seigneur de me pardonner, de me sauver. Et il l'a fait immédiatement. Dieu le sait quand on lui demande quelque chose sincèrement. Et il nous dit, « Demandez et vous recevrez. » Je reconnaissais que Jésus était mort sur la croix pour moi, personnellement. Quel amour il a eu pour moi! Et ce qui est merveilleux, mon ami, c'est qu'il a ce même amour pour toi. Cet amour parfait qui l'a conduit à la torture, à la mort de la croix. Crois-tu en Jésus? Reconnais-tu que tu es un pécheur, une pécheresse perdue? Ai-je mentionné il y a quelques minutes que même si tu es une bonne personne, même si tu fais beaucoup de bonnes œuvres, même si tu viens d'une famille chrétienne, même si tu es membre d'une église, tu n'es pas nécessairement sauvé pour autant. Il a aussi mentionné que ce n'est pas même notre foi qui nous sauve, mais c'est Jésus-Christ. La foi n'est qu'un instrument pour recevoir le salut. Alors demande à Jésus de te sauver.
Chers amis, nous vous invitons à correspondre avec nous afin de recevoir un cours « Parole par poste ».
Qu'est-ce qu'on apprend, Régent, dans des études bibliques par correspondance?
Dans la série radiophonique à travers la Bible, on a vu au tout début de la série qu'il y avait différentes façons d'étudier la Bible. Celle-ci est par thème. Les gens pourront y découvrir le thème de l'amour, qui est Dieu, qui est la personne de Jésus-Christ, comment faire pour aller au ciel.
Ça a vraiment l'air intéressant. Aimerais-tu nous en dire un peu plus long?
Tous les thèmes, les grandes questions que les gens se posent, sont répondus à travers la Bible. Les gens n'ont qu'à nous demander le petit fascicule, quelques pages, et remplir le questionnaire.
Alors, on n'a pas besoin d'autres livres?
La Bible. Uniquement la Bible et ce petit fascicule que l'on remplit, et on le renvoie à l'adresse qui sera inscrite sur ce petit fascicule.
Pour en faire
la correction, parce que les gens pourront suivre cette série.
Ah, c'est pas compliqué.
Très simple.
J'ai vraiment le goût de m'inscrire.
Et pour le faire, voici nos coordonnées au téléphone.
1-877-L'Espoir ou 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca. Adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Au revoir.
À demain.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.